Qui se douterait avoir dans Elder qui l'a bravé tant de dangers? Son secrétaire assassiné, ses collaborateurs arrêtés, les menaces de mort la nuit au téléphone pendant des mois, sa voix censurée à la radio brésilienne, son visage interdit sur les écrans de télévision. De cela, Don Elder parle très peu. Et pourtant, de tout cela, Don Elder a souffert et souffre encore.
Don Elder s'est vu imposer d'abord la loi du silence. Il n'a plus le droit de parler au Brésil et on n'a plus le droit de parler de lui au Brésil. Il est possible que pèse toujours sur lui la menace de se voir retirer son passeport, de se voir retirer ses droits civiques, de ne pas pouvoir quitter le Brésil, de ne plus pouvoir rentrer au Brésil. Mais il me semble que la persécution la plus sévère qui ait été exercée contre Don Elder, ça a été autour des années 70 et au-delà, les pressions extrêmement violentes qui ont été exercées sur lui par l'intermédiaire de son entourage. Plutôt que de porter atteinte à Don Elder, de l'arrêter, de l'interroger, de le brimer de quelque manière, il a paru plus efficace d'essayer de l'intimider, de l'impressionner en s'en prenant à ses plus proches collaborateurs, prêtres ou laïcs. Et je crois pouvoir dire que c'est ce qui a été le plus dur à supporter pour Don Elder, qui mille fois aurait préféré que l'on s'en prenne directement à lui plutôt que l'on s'en prenne à des hommes, des femmes, prêtres ou laïcs qui avaient beaucoup moins que lui les moyens de se défendre, qui n'avaient pas sa notoriété internationale, etc.
Ce n'est pas par hasard que Gandhi a été tué. Ce n'est pas par hasard que Martin Luther King a été tué. Ce n'est pas par hasard que mes amis très nombreux ne voient pas leur nom sur les journaux, ne paraissent pas de la radio, de la télévision et qui tombent comme victimes de l'oppression qui craint la non-violence.
Pendant bien longtemps, Don Elder a été une voix qui clamait dans le désert. Une silhouette mince et noire, agitant les bras avec désespoir, conscient de la faiblesse de ses protestations et de l'ampleur des tâches à accomplir. Mais aujourd'hui, ce solitaire n'est plus seul. Son équipe a grandi. Sa voix résonne aux quatre coins du monde et non plus seulement aux frontières arides du Nord-Est.
Il n'a pas craint d'aller ailleurs, dans les autres pays, non pas pour dire du mal de son pays, ça il n'a jamais voulu le faire. Il a dit, si j'ai à dire quelque chose de mon pays, c'est dedans. Mais dehors, non. Mais pour alerter surtout les autres pays, pour alerter les catholiques des autres pays, car il sent d'une manière très forte comment l'international joue un rôle considérable, exerce un poids pesant dans les pays du tiers-monde, et que ces pays sont souvent écrasés par les puissances économiques, les puissances d'argent, les sociétés multinationales qui empêchent un pays de se développer, et souvent les gouvernements sont écrasés aussi. Et quand il dit les pauvres, il y a non seulement les pauvres matériellement, mais il y a des gouvernements, des chefs qui sont écrasés par des pays qui économiquement sont plus forts. Et là alors, il a été très courageux et il a dit très fermement combien il y en avait là qui étaient écrasés, et il a montré comment l'Église devait être celle qui éveille, celle qui n'a pas peur d'interpeller et de dire l'Évangile très fort, même à ceux qui ont ainsi la puissance et qui ne servent pas toujours le développement de la personne humaine.
C'est incroyable. Dans les siècles des ordinateurs, dans les siècles des voyages spatiaux, plus que les deux tiers de l'humanité dans une condition de misère, de faim. C'est incroyable que l'homme qui, dans la ligne de l'intelligence, dont le signe que vraiment il participe du pouvoir créateur de Dieu, Dans la ligne de la volonté, il reste un singe, un primaire. Il reste tellement incapable de surpasser l'égoïsme. Voilà comme j'envisage les massacres des innocents.